Bien, bonsoir à tous. Un vrai plaisir d'être parmi vous ce soir, de revoir des amis, bien sûr, mais pas que, de vous découvrir vous. J'ai pu prendre un repas avec votre pasteur tout à l'heure, c'était très sympathique. Et vraiment, c'est toujours une joie en fait de venir en Suisse et de découvrir toujours davantage cette belle région. Ma femme n'est pas là ce soir, mais elle va me rejoindre demain. On va passer le week-end ici. Vous voyez, on aime beaucoup la Suisse. Hein. C'est toujours un plaisir pour nous de revenir. Alors, le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre qui laisse indifférent, n'est-ce pas ? Je ne sais pas exactement ce qui vous a poussé à venir ce soir, les uns les autres, mais j'imagine que si vous êtes là, c'est parce que ce livre... vous interpelle ou vous a interpellé, vous pose question, peut-être même qu'il vous fascine. En fait, la mention même du livre de l'Apocalypse est quelque chose qui évoque chez, je pense, chaque chrétien des émotions assez fortes, mais des émotions qui peuvent varier du tout au tout. Certains ont très peur de ce livre, ne le lisent jamais. Certains ne veulent pas du tout en entendre parler. D'autres aimeraient bien le comprendre, mais ils ont été découragés à la lecture de celui-ci. C'était mon cas pendant très longtemps, hein, quand je l'ai lu quand j'étais adolescent. Je n'ai pas compris grand-chose. Et en plus, vous savez, à plusieurs reprises dans le livre, il est dit « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. S'il est intelligent, il comprendra. » Je ne comprenais rien et à chaque fois, j'avais l'impression qu'on me rabaissait. Donc j'ai dit « Bon, allez, j'arrête ce livre-là, j'y comprends rien, ce n'est pas pour moi. » Mais j'ai réalisé plus tard que c'était quand même très dommage. Et en même temps, il y a d'autres personnes qui sont absolument fascinées hein, par ce livre-là, tellement fascinées que quelque part, il est devenu le seul livre qui compte pour eux, pour la construction de leur théologie, pour la construction de leur vie chrétienne aussi, leur compréhension de la vie chrétienne. Et puis, on sait qu'il y a énormément d'interprétations possibles, différentes de ce livre, et que beaucoup de polémiques ont vu le jour à son sujet, des polémiques qui ont rarement aidé l'Église finalement, hein, qui ont rarement aidé les chrétiens à grandir dans leur foi. Ces polémiques attirent certaines personnes qui aiment ça, qui aiment polémiquer, mais elles ont tendance aussi à rebuter énormément d'autres personnes. Alors je ne sais pas, bien sûr, hein, quelles ont été vos expériences de ce livre, si ce sont des expériences plutôt positives ou plutôt négatives ou neutres tout simplement. Mais ce soir, je voudrais vous proposer une approche finalement assez simple, et j'espère sereine, de cet écrit chrétien. Ce soir, on va essayer ensemble de prendre un petit peu de recul et de prendre ce livre dans sa globalité. Hein, comme Anthony le disait, hein, on n'a qu'une heure devant nous, donc on va essayer de dresser un portrait de ce livre avec à grands traits. Hein. On ne va pas trop s'arrêter sur certains passages qui peuvent bloquer dans ce livre, mais proposer oui, une vision d'ensemble qui, justement, quand elle sera acquise, va nous permettre, éventuellement, ou vous permettra plus tard, de rentrer dans le détail de ce livre et de mieux comprendre ce qui s'y trame, ce qui se joue là. Donc, ce soir, on ne va pas trop rentrer dans les détails, même si nous lirons des morceaux choisis, assez conséquents, des textes clés, mais nous allons en tout cas essayer d'observer, d'expliquer l'ensemble. Ce qu'est ce livre, quelle est sa raison d'être, ce qu'il raconte et pourquoi, finalement, il a été écrit. Alors, qu'est-ce que le livre de l'Apocalypse ? À quel genre de littérature ce livre appartient-il ? Cette question est peut-être la plus importante de toutes parce que les réponses que nous donnerons vont déterminer la lecture que nous en ferons. Si on est convaincu que c'est un conte de fées, on va le lire comme un conte de fées. Si on est convaincu que c'est un article de journal, on va le lire comme tel également. Connaître, voyez, le genre littéraire d'un écrit, c'est fondamental parce que ça fonctionne quelque part comme une sorte de contrat implicite entre l'auteur et le lecteur de cet écrit. Alors on pourrait dire simplement que l'Apocalypse est un livre biblique et puis s'arrêter là, mais ça ne peut pas suffire, vous imaginez bien. Et vous en conviendrez parce que la Bible elle-même contient un nombre très important de types de littérature différents. Il y a de la poésie, il y a de l'histoire, il y a du narratif, des récits, il y a des lettres, il y a de la sagesse, etc. Il faut donc être plus précis que cela pour mieux cerner à quel type de littérature nous avons affaire à travers ce livre de l'Apocalypse. Alors je voudrais vous inviter à lire un premier texte, le tout début de l'Apocalypse. Alors les textes, je vais les afficher à l'écran pour faciliter votre lecture ou votre écoute. Donc les 5 premiers versets de l'Apocalypse qui vont nous aider à mieux cerner justement quel est ce genre, quelle est cette littérature à laquelle nous avons affaire. Apocalypse 1, versets 1 à 5. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. Il l'a signifié en envoyant son ange à son esclave Jean, qui a témoigné de tout ce qu'il a vu. La parole de Dieu est le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui est écrit. Car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant le trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Vous voyez que déjà, dans ces quelques premiers versets, c'est assez haut en couleur, il y a déjà certaines images, des expressions dont on n'a pas trop l'habitude. Mais ce que l'on remarque, c'est que dans ces quelques versets, 3 catégories d'écrits ressortent, faisant de l'Apocalypse un livre un petit peu hybride, comme on va le voir. Déjà, on découvre que c'est une révélation. Le premier mot, hein, révélation de Jésus-Christ, c'est le terme Apocalypse, révélation. Et puis, on voit au verset 3 que c'est une prophétie, ce livre. Et finalement, on découvre que c'est aussi une lettre, quelque chose qui a été écrit à des destinataires précis. Alors la plupart des exégètes qui étudient ce livre sont convaincus que l'Apocalypse finalement est tout cela à la fois, une prophétie apocalyptique sous forme de lettre. Alors dit comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est pour ça que j'aimerais que dans les quelques instants qui suivent, ces 3 termes soient pris l'un après l'autre, que nous les étudions ensemble pour bien saisir leur sens, pour bien saisir leur intérêt aussi. On commence par Apocalypse, révélation. Comme je le disais, le premier mot que l'on trouve dans ce livre, c'est Apocalypse, c'est-à-dire révélation. C'est le terme grec qui signifie révélation. Il est question dans ce livre de la révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire, d'ailleurs, ce n'est pas très clair, hein, révélation de Jésus-Christ, ça peut être révélation à propos de Jésus-Christ, ou ça peut être révélation sur, qui vient, qui émane de Jésus-Christ. Hein. Donc là, il faut déterminer ce dont il est question exactement. Mais l'ensemble de ce premier verset est intéressant parce qu'il montre qu'il y a une chaîne de révélation, ou de révélateur, une chaîne de témoins par laquelle passe cette révélation. Si on remet dans l'ordre tout ça, on a Dieu qui a donné à Jésus-Christ la révélation, puis un ange a fait passer l'information à Jean, et Jean l'a répété aux serviteurs, aux esclaves de Dieu. Dieu donc, comme on le voit ici, dès ce premier verset, a voulu que cette révélation de Jésus-Christ soit transmise, qu'elle arrive jusqu'à ses esclaves, ses serviteurs, hein, c'est le même mot dans le grec, jusqu'aux chrétiens finalement. Et il est donc passé par tous ces témoins, par toute cette chaîne de témoins pour y arriver. Il est donc question d'un contenu, d'un message, d'une révélation que veut faire passer Dieu à ses enfants. Voilà ce que nous allons trouver dans ce livre de l'Apocalypse, une révélation, un message. Mais le terme Apocalypse, le premier mot du livre, suggère bien sûr plus que cela. En employant ce terme et en lisant l'ensemble du livre, on comprend que ce livre appartient à un genre littéraire qui est bien connu, qui était bien connu à l'époque et moins connu aujourd'hui, une catégorie de littérature juive et chrétienne que l'on appelle justement le genre apocalyptique. C'est un genre littéraire qui était connu, répandu à l'époque. Il y a d'autres livres bibliques qui contiennent ce genre littéraire, comme une partie du livre de Daniel, chapitres 7 à 12, ou en Marc 13, ce qu'on appelle la petite Apocalypse. Il y a d'autres livres deutérocanoniques que l'on ne retrouve pas dans les Bibles protestantes, comme 1 Hénoc, ou 4 Esdras, ou 2 Baruch. Donc on est en présence d'un genre littéraire qui peut, à nous, nous semblait assez étrange, mais qui était connu, fort connu même, répandu à l'époque, au 1er siècle, dans l'Empire romain. Ce genre, on pourrait le résumer ainsi, en ces termes. Voici ce que je vous propose. Le genre apocalyptique, c'est un genre littéraire contenant un cadre narratif, donc c'est un récit, dans lequel une révélation est donnée par un être extraterrestre à un destinataire humain, offrant une perspective transcendante, spatiale, c'est-à-dire qui implique un autre monde, un monde surnaturel, et une perspective transcendante temporelle, envisageant un salut eschatologique, un salut à venir. Je vais expliquer tout cela. Une apocalypse donne donc, communique une perspective transcendante sur le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, pour ce qui est de notre livre, ça veut dire que tout d'abord, Jean, l'auteur de cet écrit, a été pris hors du monde. C'est l'aspect spatial de cette révélation. Il a été emmené dans une vision et il lui a été donné de voir le monde à partir d'une autre perspective. La perspective de Dieu lui-même sur le monde présent, sur le monde que nous connaissons. C'est toujours dans le premier chapitre de l'Apocalypse que Jean raconte cette expérience, cette vision où il a été emmené. On va lire ce texte à partir donc du verset 9 d'Apocalypse 1. « Moi, Jean, votre frère, qui prend part à la détresse, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, quand je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son de la trompette, ou d'une trompette. Cette voix disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour voir celui qui parlait avec moi. Quand je me fus retourné, je vis sept porte-lampes d'or et, au milieu des porte-lampes, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or à la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme un feu flamboyant. Ses pieds ressemblaient à du bronze incandescent et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée acérée, à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa puissance. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sur moi sa main droite en disant « N'aie pas peur, c'est moi qui suis le premier et le dernier, le vivant. Je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais, et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver après. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux sept porte-lampes d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept porte-paroles sont les sept églises. » Vous voyez, dans sa vision, Jean est dans la présence de Dieu lui-même, devant son trône, il voit Jésus-Christ là, au ciel. Et ainsi, de cette perspective, de cet endroit, il va pouvoir avoir un regard différent sur le monde. Il va pouvoir voir le monde à partir de la perspective de Dieu lui-même. Et ceci, forcément, change son regard sur les événements de l'histoire, sur ce qu'il est en train de vivre, sur ce que ses concitoyens et ses frères et sœurs chrétiens sont en train de vivre eux aussi. Pour moi, c'est un petit peu comme si vous imaginiez une scène de théâtre. Alors là, on ne voit pas les acteurs, mais imaginez des acteurs sur cette scène de théâtre, une scène où se déroule donc cette pièce. On sait qu'il y a des gens qui s'affairent derrière le rideau, des gens essentiels au bon déroulement de la pièce, bien sûr, mais on ne les voit pas. Et bien, dans l'Apocalypse, Jean prie dans sa vision, Jean voit ce qui se passe derrière le rideau. Et il nous partage cette perspective. Qu'y a-t-il derrière le rideau ? Eh bien, il y a Dieu, Dieu qui règne. Il y a les croyants qui sont dans sa présence, les croyants qui sont décédés et qui sont là avec lui. Il voit aussi un combat entre l'armée céleste, l'armée de Dieu et les forces du mal qui tentent, quand bien que mal, de se déchaîner. Jean va voir tout cela dans sa vision. Il va voir ce qui n'est normalement pas accessible à l'œil. Et il va partager cette vision pour changer le regard de ses lecteurs sur ce qui se passe vraiment dans le monde, dans la création de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Pour revenir à notre définition de ce genre apocalyptique, Jean est aussi pris dans sa vision vers un futur final du monde. Ça, c'est l'aspect temporel de cette révélation. Jean est pris hors du monde, dans une autre réalité spatiale, mais il est aussi emmené à voir l'avenir. C'est l'aspect temporel. Là encore, cette vision va, vous l'imaginez bien, l'aider à voir le présent à partir de cette perspective d'avenir, en l'occurrence à partir des temps de la fin, du retour de Christ, du renouvellement de toutes choses, de la nouvelle création. Dans l'Apocalypse, Jean va décrire des choses qui sont encore à venir. Il décrit la nouvelle création, la nouvelle Jérusalem qui descend sur la terre. Il décrit ce que sera cette création quand Christ sera revenu, quand le jugement dernier sera passé. Il nous donne donc une vision des choses parfaites qui sont à venir et que nous attendons encore. Alors pourquoi offrir de telles perspectives transcendantes aux lecteurs de l'Apocalypse ? Quels effets est-ce que cette vision des choses, quels effets peuvent-elles avoir sur les lecteurs ? Eh bien, très clairement, si Jean propose une telle vision, si Jean a écrit l'Apocalypse, c'est pour élargir le regard du lecteur sur son propre monde, pour élargir son champ de vision, quelque part. Grâce à Jean, grâce à la perspective qu'il nous offre sur le monde, les lecteurs voient aussi le monde différemment. Ils apprennent à comprendre qu'il n'y a pas que ce qu'ils voient de leurs yeux qui existe. Grâce à lui, nous comprenons que ce que nous voyons, ce que nous expérimentons jour après jour, notamment nos difficultés d'ailleurs, ne sont qu'une perspective sur le monde, une perspective très limitée. Une perspective qui ne prend pas en compte l'ensemble de la réalité. Jean, lui, nous apporte une perspective tout autre, une perspective divine qui peut nous encourager et qui peut nous exhorter aussi à persévérer, à marcher. Je vous donne un exemple. On pourrait facilement aujourd'hui, par exemple, être découragé face à l'injustice, si elle nous touche en particulier. Imaginez que vous êtes victime de ragots ou de rumeurs qui nuisent à votre réputation. Ça peut arriver. Et vous vous dites que ça va être compliqué à rattraper, même c'est foutu pour vous. Humainement, il n'y a pas de solution. La rumeur s'est développée. Tout le monde pense certaines choses à votre sujet. Vous n'arriverez jamais à rattraper le coup. Vous ne retrouverez jamais votre statut aux yeux des gens. Et vous pourriez même être tenté de vous venger, ou d'utiliser des moyens malhonnêtes pour rétablir la vérité. Eh bien, la perspective de l'Apocalypse qu'offre Jean peut, je crois, nous aider à prendre un petit peu de recul sur ce type de situation, ou prendre un peu de hauteur, c'est selon. En vous donnant à voir ce qu'il se passe derrière le rideau de l'histoire, et en vous donnant une vision de l'avenir, des choses à venir, vous pouvez ne pas perdre espoir. Jean, comme on va le voir, va vous rappeler que Christ a déjà vaincu l'injustice et que bientôt, cette injustice aura totalement, complètement disparu. Elle n'existera plus. Vision des choses à venir. Depuis la croix, Christ a vaincu la justice. L'injustice, il a vaincu le mal en général. Et Jean va nous montrer aussi que, certes, aujourd'hui encore, le diable continue de tenter d'embêter le monde avec toutes sortes de choses, avec le mal, avec l'injustice. mais Satan a bel et bien été vaincu. Jean nous le rappelle. Et bientôt, Satan sera mis totalement hors d'état de nuire. Et sans cette perspective transcendante, divine, sur le monde, vous pourriez effectivement penser que tout est foutu pour vous, dans votre situation. Vous pourriez être tenté de désespérer. Mais fort de cette perspective-là, vous pouvez garder courage dans l'épreuve. Vous pouvez garder confiance en Dieu, en un Dieu qui règne dès à présent. Ce n'est pas le diable qui règne, ce n'est pas le mal qui règne dans notre monde, c'est Dieu qui règne sur le monde. Jean nous le rappelle. Et vous pouvez donc garder confiance en un Dieu qui rétablira toutes choses. Voilà une façon dont la perspective transcendante, spatiale et temporelle qui est offerte dans cet apocalypse peut pour nous être fort pratique, actuelle finalement, utile pour nous aujourd'hui. Elle nous dit une réalité invisible, mais bien réelle néanmoins, qui est à même de nous aider dans notre vie quotidienne. Bien. Mais si, comme nous venons de le voir, ce livre est une apocalypse, qui appartient au genre apocalyptique, ce livre est également, comme on l'a vu tout à l'heure, une prophétie. En fait, nous ne savons virtuellement rien d'autre sur ce genre de Patmos que ce fait-là. Il était prophète. Alors, la tradition a dit que c'était Jean l'apôtre, mais c'est pas comme cela qu'il se présente. Alors, c'est peut-être le même personnage, simplement, pour être tout à fait précis, on ne sait pas, on n'est pas sûr que ce soit le même personnage. Il se présente comme Jean de Patmos, et tout ce que l'on sait sur lui, c'est qu'il est un prophète, comme il le décrit, comme il le dit au chapitre 1, verset 3. Apparemment, il faisait partie du cercle des prophètes des églises de la province d'Asie mineure, comme on le voit au chapitre 22, verset 6. Et il semblerait aussi qu'il ait eu une rivale, une prophétesse, qu'il considérait comme fausse. Chapitre 2, verset 20, il la mentionne. Alors ce livre est probablement un substitut, vous l'imaginez bien, à la présence de ce prophète, de Jean de Patmos, dans les églises. Il ne pouvait pas prophétiser en live, lors d'un culte par exemple, alors il envoie sa prophétie pour qu'elle soit lue lors des cultes. Mais alors qu'entend-on par prophétie ici, et dans la Bible en général ? Vous savez que beaucoup de lecteurs présument que l'Apocalypse est prophétique simplement dans le sens qu'il prédit l'avenir, les choses de la fin, les choses que nous attendons encore. Pour eux, l'Apocalypse dévoile comment le monde va se terminer, par exemple. Mais la prophétie biblique, ce n'est pas exclusivement cela, bien sûr, ni même premièrement cela. Ce n'est pas premièrement une prédiction des choses à venir, la prophétie. Non, bien plutôt, dans la Bible, qui dit prophétie dit une parole d'encouragement, une parole de réconfort ou d'exhortation de la part de Dieu pour le peuple de Dieu dans le concret de leur situation historique. On voit donc bien comment le genre apocalyptique et la prophétie vont de pair. Cette prophétie, c'est un rapport de vision de Jean de Patmos qui, ce genre, va communiquer un message de la part de Dieu, un message d'encouragement pour le peuple de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, pour les églises. C'est en cela que c'est un message prophétique, un message d'encouragement de la part de Dieu pour le peuple de Dieu. Finalement, l'Apocalypse est aussi une lettre circulaire même. L'Apocalypse et on perd souvent cette idée de vue. L'Apocalypse est une lettre envoyée à sept églises, à l'origine, sept églises que sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. L'Apocalypse s'adresse à ces sept églises en même temps, même si, à certains endroits, chaque église est plus spécifiquement adressée. C'est le cas au chapitre 2 et au chapitre 3. Et à ce propos, un point intéressant à noter, à remarquer, c'est qu'elles sont probablement nommées, toutes ces églises, et Jean s'adresse à elles dans un ordre bien précis, ce serait l'ordre dans lequel elles auraient été visitées. Hein, si vous regardez sur la carte, on commence par Éphèse, puis Smyrne, puis Bergame, puis Thyatire, puis Sardes, puis Philadelphie, puis Laodicée, comme si le prophète faisait son tour avec sa prophétie. Mais alors, si c'est une lettre, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie quand même que c'est un écrit qui est bel et bien adressé à des lecteurs ou à des communautés du 1er siècle, avant tout. Des communautés avec leurs problèmes de l'époque, avec un contexte bien précis et déterminé. Des vrais gens, quoi. Des vrais gens qui vivaient au 1er siècle dans l'Empire romain. Et cette vision, cette prophétie apocalyptique, elle est pour eux en premier lieu. C'est pour eux qu'elle a été donnée. Un peu comme la lettre de Paul aux Colossiens a d'abord été écrite à cette église de Colosse. Et il est important de le remarquer parce que on pourrait avoir tendance à lire l'Apocalypse de manière un petit peu atemporelle, comme si elle ne s'adressait pas à un contexte bien précis. Mais cet écrit, il est bien destiné à des personnes, des communautés spécifiques au 1er siècle. Et il faut le dire, je pense que c'est important de s'en souvenir, et ça va nous aider d'ailleurs pour mieux comprendre l'Apocalypse. Et en même temps, j'avoue, on peut quand même remarquer qu'il y a 7 églises. Et que ce chiffre 7 peut nous interroger sur la visée peut-être plus universelle de cet écrit. 7, c'est le chiffre parfait qui indique quelque chose donc de la plénitude de l'Église à laquelle veut s'adresser notre auteur. Quelque part, c'est vrai aussi que Jean s'adresse donc à toute l'Église, de tous les temps, et à nous aussi donc, hein, et dans nos propres difficultés, avec nos propres contextes à nous aussi. L'Apocalypse a encore un message pour nous. Et cela, je crois, apparaît déjà dans le texte lui-même avec cette mention de 7 églises. Mais bien sûr, avant de pouvoir faire le lien avec notre propre contexte, il nous faut comprendre ce que ces églises auxquelles Jean s'adresse, Jean de Patmos s'adresse, vivaient. Quels étaient leurs contextes? Quels étaient leurs problèmes? Qu'en savons-nous? Quelles étaient les circonstances historiques dans lesquelles elles évoluaient? J'attire votre attention pour commencer sur la fin des 7 oracles. Vous savez, donc ces 7 passages au chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse où Jean s'adresse à des églises spécifiques, à commencer par Éphèse donc. Et là, à la fin de chacun de ces passages, de chacun de ces oracles, pour les 7 églises, Jean fait des promesses qu'il adresse aux vainqueurs. Par exemple, au chapitre 2, verset 7, pour l'église d'Éphèse, nous lisons « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, aux vainqueurs, je donnerai de manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. » Et on retrouve cette mention de vainqueur au verset 11, au verset 17, versets 26 et 28, puis au chapitre 3, versets 5, 12 et 21. À la fin de chacun des oracles, Jean mentionne les vainqueurs. L'appel qu'il leur est fait, donc, à tous ces chrétiens, c'est d'être des vainqueurs, d'être victorieux. Mais vainqueurs de quoi? Que doivent-ils vaincre, ces chrétiens? Eh bien, le message aux 7 églises ne l'explicite jamais exactement, mais par contre, le reste du livre nous permet de bien comprendre ce que cet appel signifie. On retrouve d'ailleurs cette expression, être vainqueur, dans la vision de la nouvelle création, tout à la fin de l'Apocalypse, au chapitre 21, versets 6 à 8. Là, nous lisons « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. » Vous voyez le même terme. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Mais pour les lâches, les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les prostituées, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort. C'est pas joyeux pour eux. Vous voyez qu'en contraste, donc, être vainqueur ici semble être ce qui est nécessaire pour entrer dans la nouvelle création et pour ne pas se retrouver dans les temps de soufre et de feu. En fait, on peut comprendre l'ensemble de l'Apocalypse ainsi. C'est un appel, c'est un encouragement, une exhortation à être victorieux, c'est-à-dire à demeurer fidèle. Fidèle dans les différentes situations de vie dans lesquelles les chrétiens se trouvent. Fidèle afin de pouvoir entrer dans la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle création. Alors pourquoi est-ce que ces sept églises à qui Jean s'adresse avaient tant besoin de cette exhortation à la persévérance, à la fidélité, à être victorieux? En fait, s'il est vrai que les sept messages aux sept églises sont bien spécifiques aux sept églises de l'époque, il n'en demeure pas moins que ces églises partageaient une seule et même situation, un même contexte, celui de l'Empire romain et de la tyrannie de cet empire. Oui, ces églises évoluaient dans un contexte ô combien oppressif. On l'oublie bien souvent. Malgré les apparences, malgré la Pax Romana, vous savez, la paix romaine, hein, qui avait été établie depuis Auguste, l'Empire n'était plus en guerre. Malgré cette paix romaine, qui était en fait tout sauf cela, eh bien, les chrétiens n'étaient pas libres. Ils pouvaient même être en danger, bien souvent. La Pax Romana, dont on était si fier à l'époque, c'était en fait un mythe. C'était une parodie de paix. C'était un système extrêmement oppressif socialement, économiquement, militairement et aussi religieusement. En tant que chrétiens, les membres des différentes églises d'Asie mineure avaient à faire face à une société qui n'acceptait absolument pas leur croyance la plus profonde. Et quelle est-elle la croyance la plus profonde des chrétiens? C'est Jésus est Seigneur. C'est en confessant cela que l'on est sauvé. Jésus est Seigneur. Mais dans l'Empire romain, il y avait déjà un Seigneur. Il y avait César. César qui était considéré, et si vous regardez les petites pièces de monnaie à l'époque, il est bien écrit César, Seigneur et Sauveur de toute la terre. Comment faire? Comment cohabiter? Donc, comment faire quand on a deux seigneurs qui proclament être Seigneur et Sauveur? Alors, pour les chrétiens, pour qui César n'était bien sûr qu'une parodie de Seigneur, qu'un faux Seigneur, il y avait un danger à affirmer leur foi, à la mettre en avant dans leur contexte. Et ça pouvait leur attirer même de graves ennuis que de le faire. Du coup, et c'est ce qu'il y avait peut-être de plus difficile dans leur situation, ces chrétiens devaient constamment se poser des questions difficiles, du fait même de vivre dans le contexte dans lequel ils vivaient. Des questions comme « Devons-nous ou devrions-nous continuer à participer aux différentes activités ?» si importantes dans notre ville, mais des activités qui ont bien souvent un caractère religieux, des activités qui honorent l'empereur, qui honorent les dieux, qui honorent César comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que nous pouvons continuer à participer à cela? Et si nous ne le faisons pas, que va-t-il nous arriver? Pouvons-nous regarder, pouvons-nous participer aux différents jeux athlétiques ou aux joutes rhétoriques à l'époque, toujours à la gloire de César? Ou encore, pouvons-nous acheter et manger des viandes sacrifiées aux idoles dans les temples qui se trouvent à chaque coin de rue? Comment nous positionner? Comment vivre notre foi en un seul Seigneur, Jésus-Christ, dans un contexte qui nie cela, qui nie cette croyance la plus profonde et qui nous oblige, d'une certaine manière, à ne pas le vivre? Voyez, certains chrétiens continuaient à participer à toutes ces choses, mais d'autres non, d'autres refusaient. Et c'est ce dernier groupe qui pouvait donc causer quelques problèmes, qui pouvait avoir des problèmes d'ordre sociaux dans cette société-là. En refusant de participer à telle ou telle activité, ces chrétiens, ils étaient vus comme de mauvais patriotes, comme n'honorant pas, comme il se doit, César et l'Empire. Ils pouvaient même être vus comme des athées. On disait qu'ils étaient athées sans Dieu, qu'ils ne croyaient pas en Dieu parce qu'ils ne croyaient pas en toute cette myriade de dieux qui étaient adorés à l'époque. Et tout cela pouvait leur attirer, oui, pas mal d'ennuis. Pas forcément une persécution, comme on entend ce terme bien souvent, mais des brimades, des difficultés. Pour l'un d'eux, au moins, Jean, ce fut l'exil, hein, sur l'île de Patmos. C'est à cause de sa foi en Jésus-Christ qu'il a été exilé sur cette île dans la Méditerranée. D'autres ont probablement dû endurer des choses pires encore, comme le fait d'être assassiné. Ça, on en a un exemple au chapitre 2, verset 13. Du coup, quelles options se présentaient pour ces chrétiens? À qui s'adresse l'Apocalypse de Jean? Eh bien, il y a l'option d'avoir peur. Le souvenir de Néron, de la persécution de Rome, était encore assez vif dans les esprits. Ils avaient raison, d'une certaine manière. C'était légitime d'avoir peur, soit de s'accommoder à la culture, aux pratiques païennes, pour éviter le danger. Alors la réponse que favorise Jean, bien sûr, c'est celle de la fidélité complète, fidélité totale envers le Christ, bien évidemment. Il veut que ses chrétiens soient fidèles au Christ, et il appelle ses chrétiens à être vainqueurs, comme on l'a vu, en ce qu'ils demeurent fidèles au Christ jusqu'au bout, jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Pour lui, la crise dont avaient à faire face les églises de la région était avant tout la crise de leur propre complaisance, finalement, vis-à-vis de l'Empire. C'est pour ça qu'il s'adresse à eux, pour les bouger un petit peu, pour les remuer, les secouer. Et c'est pour ça que Jean appelle les chrétiens à s'opposer à Rome et à ce système oppressif, à ne pas vivre selon les critères, selon les valeurs de cet empire. Pas simplement parce qu'ils pouvaient être persécutés par ce système, c'est pas simplement pour cela qu'ils devaient s'y opposer, c'est pas simplement pour cela qu'ils devaient être contre, mais aussi tout bonnement parce que ce système méritait d'être combattu, parce qu'il était pervers, parce qu'il s'opposait à Dieu, parce qu'il éloignait les chrétiens de la fidélité à Dieu. Et en cela aussi, ce livre a, je pense, beaucoup à nous dire encore aujourd'hui, beaucoup à nous apprendre, nous chrétiens qui ne vivons pas au 1er siècle dans l'Empire romain, mais qui vivons au 21e siècle, non pas au sein de l'Empire romain, mais vivant quand même dans des sociétés qui peuvent, sous certains aspects, nous faire peur, et qui nous poussent en tout cas à nous y accommoder, nous accommoder à certains principes, à certaines valeurs, à certains modes de vie. Du coup, Jean nous rappelle à l'ordre, nous aussi, nous lecteurs du 21e siècle, dans nos petits arrangements avec nos empires contemporains, avec le dieu argent, par exemple, avec le dieu sexualité, avec le dieu télévision ou divertissement, avec tout ce qui nous opprime aujourd'hui, parfois de manière très insidieuse. J'ai la joie, le privilège d'élever trois jeunes enfants, mais je vois à quel point la société dans laquelle nous vivons, dans laquelle ils vivent, peut insidieusement essayer de les influencer, les forcer à s'y adapter, à s'y accommoder. Mon fils, il est en quatrième, c'est le seul dans sa classe à ne pas avoir un smartphone. Alors il nous tanne. Mais on essaie de résister. On essaie de résister à cette culture finalement du consumérisme, du divertissement, du tout tout de suite. C'est une petite chose, bien sûr. Mais on voit la pression qui est mise sur nos épaules, sur les épaules de nos enfants. Cet empire du consumérisme, cet empire du divertissement, de l'argent et tout ce que cela entraîne de façon si insidieuse bien souvent. Alors je ne dis pas que les smartphones sont mauvais, bien sûr. Hein. Et je ne dis pas que c'est la solution nécessairement de ne pas laisser notre fils avoir un smartphone. Mais aujourd'hui, c'est ce qui nous semble juste et bon pour nous dans notre contexte. En tout cas, face à cela, Jean nous appelle, nous aussi, dans nos contextes, il nous appelle à la fidélité, il nous appelle à faire le choix de ni s'accommoder à nos sociétés, ni d'en avoir peur, mais d'oser être fidèle, d'oser être chrétien, même si cela nous attire des ennuis, même si la société tout entière risque de nous regarder de haut, même si elle risque de nous moquer, de nous rejeter. Pour nous, comme pour les lecteurs du 1er siècle, la victoire sera atteinte en passant par la fidélité à Christ. En tout cas, on le voit, les circonstances de ces églises, leur contexte, ne sont finalement pas si éloignées que cela des nôtres. C'est en cela aussi que le livre de l'Apocalypse est un livre d'une grande actualité qui a beaucoup à nous apprendre. On n'a pas forcément besoin de s'imaginer en situation de persécution pour lire et recevoir quelque chose du livre de l'Apocalypse. Dans les sociétés dans lesquelles nous vivons quelque part, c'est des oppressions. Et le livre de l'Apocalypse nous encourage, il nous exhorte à la fidélité, quel que soit le contexte dans lequel nous vivons, quels que soient les arrangements, les accommodations qui nous tentent. Bien, alors, jusqu'ici, nous avons vu que Jean, dans l'Apocalypse, appelle les chrétiens à la fidélité. Fidélité complète, totale, sans compromis, envers Christ. Et ça signifie pour eux s'opposer à Rome, s'opposer à l'Empire, s'opposer à son système oppressif. Être fidèle à Christ, c'est être sans complaisance face à l'Empire, face à l'oppression. Mais j'aimerais maintenant évoquer comment, sous quelle forme, Jean fait cela pour ses lecteurs. Comment il présente pour eux ce message qui va les encourager dans ce sens? En un mot, je dirais que Jean fait cela sous forme d'un récit. Comme on va le voir maintenant, l'Apocalypse, c'est le récit d'un conflit. D'un conflit que Dieu parviendra à emporter. Tout le livre de l'Apocalypse fait état d'un conflit. Le conflit dont il est question, bien évidemment, c'est un conflit entre Dieu et les forces du mal et leurs représentants respectifs. Il est donc question d'un conflit cosmique, hein, qui nous dépasse très largement. Un conflit sur la terre et dans les lieux célestes. Revenons tout un petit peu en arrière. Comme vous le savez, Dieu a créé le monde, il a créé l'humanité pour que cette humanité le loue, pour qu'elle l'adore, lui et lui seul, pour que Dieu puisse avoir communion avec eux, avec elle, et pour que la communion soit aussi possible entre l'humanité et entre elle, dans l'humanité entre elles. Dans l'Ancien Testament, on voit que l'humanité s'est pourtant détournée très vite de cette volonté divine. Elle a été influencée notamment par Satan, si bien que Dieu a dû agir en vue de rétablir quelque chose, de rétablir sa création dans l'harmonie. À partir de Genèse 12, donc, Dieu se choisit un homme, Abraham, un peuple, pour que ce peuple devienne une sorte de prophète, d'évangéliste, hein, vis-à-vis de toutes les autres nations, pour montrer qu'il est possible d'être réconcilié avec Dieu, de vivre de façon harmonieuse avec lui et les uns avec les autres. Et puis, ça n'a pas vraiment très bien marché. Le peuple n'a pas été fidèle à cette vocation, si bien que pour réaliser ce plan, Dieu a envoyé son fils, Jésus-Christ, le Messie, qui était tant attendu par tout le peuple juif. Celui-ci, alors qu'il était poursuivi par Satan, est resté fidèle jusqu'à la mort sur la croix, et Dieu l'a ressuscité et l'a élevé dans les lieux célestes, si bien que, il est tout autant digne de louange que le Père. La bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus, l'Évangile, a donc été prêchée dans tout le bassin méditerranéen très tôt par les apôtres dans l'Empire romain, et des communautés chrétiennes ont été fondées les unes après les autres par ces mêmes apôtres et d'autres évangélistes. C'est le cas de ces sept églises que l'on retrouve dans l'Apocalypse au chapitre 2 et 3. Et bien ceci, cette histoire, je propose qu'on la garde bien en tête parce que c'est en quelque sorte le prologue du récit qui va suivre, du récit cosmique dont il est question dans l'Apocalypse. Ce récit que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, c'est un récit en quatre actes. Alors pas quatre actes dans l'ordre, hein, je vais les reconstruire d'une certaine manière. Les quatre actes, on les retrouve un petit peu partout dans le livre de l'Apocalypse. Mais il y a bien quatre actes distincts qui forme un récit, le récit d'un combat cosmique entre Dieu et les puissances qui s'opposent à lui. Quels sont ces quatre actes? Premier acte, Satan est à l'offensive. On le sait, Satan s'est toujours opposé à Dieu et à ses desseins, à ses projets pour le monde, et il continue encore de poursuivre le peuple de Dieu, il continue de vouloir lui nuire. Et on voit cela par exemple au chapitre 12, de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, on découvre, par exemple, qu'il a réussi à séduire quelques êtres humains importants pour qu'ils deviennent des complices, des associés. Dans notre livre, Babylone, qui fait référence à l'Empire romain, c'est une manière un petit peu déguisée de parler de l'Empire romain, on parle de Babylone. Babylone, c'est cela. C'est quelque part un associé de Satan dans sa quête pour nuire à Dieu et à ses enfants. Babylone fait partie de cette opposition menée par Satan contre Dieu et ses desseins, Dieu et ses enfants, Dieu et les fidèles. Du coup, plusieurs personnes fidèles à Dieu ont été tuées, oppressées, et au moins un, Jean, a été exilé à cause de son témoignage fidèle. Pour cette offensive de Satan, Satan emploie deux représentants dans l'Apocalypse, deux bêtes dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et que l'on rencontre dans Apocalypse 13, au chapitre 13. Je vais vous lire ce chapitre en entier maintenant. Vous pouvez lire à l'écran ou simplement fermer vos yeux, essayer de vous imaginer un petit peu la scène, à quoi ressemblent ces bêtes-là. Jean écrit, il raconte toujours ce qu'il voit dans sa vision. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes, 10 diadèmes, sur ses têtes, des noms blasphématoires. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa bouche comme la bouche d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. L'une de ses têtes était comme égorgée, mais sa blessure mortelle fut guérie. Étonnée, toute la terre suivit la bête. On se prosterna devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. On se prosterna devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut lui faire la guerre ?» Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour calomnier son nom et sa demeure, ceux qui ont leur demeure au ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de la vie de l'agneau, immolés depuis la fondation du monde, se prosterneront devant elle. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un doit être tué par l'épée, il sera tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Elle produit de grands signes, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des humains. Elle égare les habitants de la terre par les signes qui lui a été donné de produire devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris la vie. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête pour que l'image de la bête parle et fasse tuer tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Elle fait qu'on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici qu'intervient la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre humain. Son chiffre est 666. Tadadam. Vous voyez, deux bêtes. La première, pour le dire très simplement, la première clame avoir des pouvoirs divins sur toute la terre, et la deuxième, elle encourage tous les êtres humains, les nations, à louer la première bête, à l'adorer, à la servir. Alors, je ne vais pas m'attarder trop longuement sur toute cette description, bien sûr, haute en couleurs, très imagée, avec beaucoup de symbolisme, et on ne comprend pas toujours tout, bien sûr, mais je crois que c'est plus l'ensemble qu'il nous faut essayer de saisir ici. Peut-être vous posez-vous quand même la question sur ce 666 dont vous avez très certainement déjà entendu parler. Il faut dire déjà que sur ce chiffre, hein, ce nombre, 6, contrairement à 7, c'est l'imperfection. Hein. Donc 666, c'est une parodie de perfection dans la bouche de Jean. La perfection, ce serait 777. Et là, c'est 666, une parodie. Mais il est également probable, bien sûr, que nous sommes face à un exemple de gématrie. Gématrie, c'est l'utilisation de chiffres pour faire référence à quelque chose d'autre de façon symbolique. Chaque chiffre a une valeur que l'on peut faire correspondre à des lettres. Et donc, on étudie tout cela et on essaie de trouver à quoi fait référence ce 666. Alors, dans ce cas, il y a beaucoup de propositions qui ont été faites, souvent d'ailleurs tout à fait farfelues, vous l'imaginez bien, pour trouver à quoi correspond ce 666. Alors, certaines sont très imaginatives, et je suis impressionné à chaque fois quand je lis des choses pareilles. Certaines sont plus fiables. On a proposé, vous l'imaginez bien, que c'était Hitler, 666, et C'est très imaginatif, mais ce n'est pas totalement idiot non plus. Si A, la lettre A égale 100, on fait de la géométrie, si B égale 101, si C égale 102, etc., eh bien, pour Hitler, on arrive à 666. Ah, donc c'était lui, on dit beaucoup de personnes au tournant de la Première Guerre mondiale. D'autres ont proposé, peut-être plus étonnamment, Ronald Wilson Reagan, parce qu'il y a 6 lettres dans chacun de ces noms. Ronald Wilson Reagan, donc, pour certains, c'était lui. C'était lui, la deuxième bête, c'était lui, ce 666. Vous imaginez que Barack Obama y est passé aussi, bien évidemment. Et puis je suis sûr qu'aussi on cherchait Anthony Perrault, ça serait 666 aussi, c'est possible, on peut arriver à tout. Il faut faire attention, bien évidemment. C'est pas le cas d'Anthony, je vous rassure, c'est pas lui. Absolument pas. Non, il est très très probable que c'est une référence finalement à l'empereur Néron qui est faite ici. Le grec pour Nero César, c'est Néron Kaysar, et qui peut être translittéré en hébreu avec les lettres suivantes, donc N, R, W, N, Q, S, R, et en utilisant la gématrie, où dans l'hébreu chaque lettre correspond à un chiffre, eh bien on arrive à 666. Et ce qui nous fait dire cela, ce qui fait dire cela à la plupart des exégètes, c'est qu'il y a pas mal de textes, de variantes du texte de l'Apocalypse, de manuscrits, où le chiffre n'est plus 666, mais 616. Or, en hébreu, il est possible de translittérer le nom de Néron sans le N final, en disant simplement Néro, et comme N c'est 50, eh bien on arrive à 616. Ce qui a fait penser que c'était bien de lui dont il était question pour ce chiffre de la bête. Néron, César, cet oppresseur, cet empereur si violent et persécuteur des chrétiens. Bref, si le premier acte du récit montre que Satan est à l'offensive, le deuxième acte, lui, voit, comme on l'a vu déjà, le prophète encourager les églises, les chrétiens, à la fidélité, alors même qu'elles sont dans la crainte de la persécution, alors même qu'elles sont tentées de s'accommoder à cette culture qui s'oppose à Dieu. L'auteur Jean fait cela assez explicitement au chapitre 1 à 3, pour commencer, ces lettres aux sept églises, mais plus encore, pour les encourager, ces chrétiens, Jean leur rappelle aussi que Dieu a déjà agi pour leur salut. Ça, c'est quelque chose de très fort dans l'Apocalypse. Il leur rappelle ce que Dieu, en Jésus-Christ, a déjà accompli. Il a déjà agi pour leur salut à travers la mort de Jésus-Christ sur une croix. Pour lui, cette mort, et c'est la théologie chrétienne qui le dit de façon générale, la mort de Jésus était comme un acte de guerre contre Satan. Et même déjà une victoire contre Satan, une victoire décisive sur Satan et ses associés, sur Satan et le pouvoir de la mort qu'il détenait. Jean rappelle donc que ceux qui gardent la foi sont libérés de l'oppression de leurs péchés, sont libérés du pouvoir de Babylone et de la mort. Ils sont sauvés. Et ça, c'est vraiment un message ô combien fondamental tout au long du récit, un message qui doit habiter les lecteurs encore aujourd'hui, les encourager. Ils sont déjà sauvés. Nous sommes déjà sauvés si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, mort en croix, ressuscité, qui règne aujourd'hui dans les lieux célestes. Mais ce message, il est aussi révolutionnaire quelque part, pour les lecteurs de l'époque et pour nous aujourd'hui, parce qu'il rappelle la nature du combat qui a été mené par Jésus-Christ sur la croix et la nature du combat qui doit être mené par les chrétiens à sa suite. Je vais vous inviter maintenant à lire le chapitre 5 de l'Apocalypse, sans doute l'un des plus beaux de tout le livre, qui montre la beauté de la chose, la façon dont Jean va décrire Jésus ici, Jésus qui règne, est absolument magnifique et c'est un encouragement à vivre, à considérer qui est Jésus-Christ, ce qu'il a accompli et comment, quelque part, le suivre à notre tour. Chapitre 5 de l'Apocalypse déclare ceci. « Alors je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et au-dos, scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant pris qui proclamait d'une voix forte, Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Mais l'un des anciens me dit, ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a été vainqueur. Il peut ouvrir le livre et ses sept sceaux. Alors je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau, debout, qui semblait immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, tenant chacun une lyre et des coupes d'or pleines d'encens qui sont les prières des saints. Ils chantent un chant nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu un royaume et des prêtres et ils régneront sur la terre. » Je m'arrête là pour cette lecture un petit peu longue. On pourrait relever beaucoup de choses dans ce chapitre, dans ce texte, mais ce que je voudrais mettre en avant, c'est que la victoire de Christ passe par sa mort sacrificielle pour son peuple. Le lion de Juda, un symbole puissant, le rejeton de David, le Messie, celui qui règne, est décrit comme un agneau, qui est mort pour que les nations qui étaient jusque-là sous l'emprise de Satan soient libérées, pour qu'elles soient sauvées. Eh bien, je crois qu'il y a là, effectivement, un nouveau paradigme pour la vie chrétienne qui est proposé aux lecteurs de l'Apocalypse. C'est aussi comme cela que les chrétiens sont appelés à combattre les forces du mal qui continuent de s'agiter dans le monde. Par le sacrifice, par le don de soi, par l'amour qui se donne pour l'autre, même l'ennemi. Au verset 10, on a lu l'expression « un royaume de prêtres ». Ça fait référence à Exode 19, verset 6, un passage qui vient juste après la première Pâque du peuple de Dieu. Il y a eu une libération de ce peuple et cette libération a conduit le peuple à prendre conscience de sa mission, de devenir prêtre, d'annoncer quelque chose aux nations. Le peuple racheté, libéré, il est investi d'une mission sacerdotale, une mission de témoignage dans le monde. Eh bien, c'est pareil dans l'Apocalypse, c'est la même chose. Le peuple de racheté par le Christ, ce peuple annonce, il proclame dans sa vie qui est Dieu et ce qu'il a fait. Et il met en application la volonté de Dieu pour le monde. La réconciliation, la recherche de la paix. Et pour ce faire, ils suivent l'exemple de l'agneau. L'agneau immolé. Le peuple est appelé, les chrétiens sont appelés à prendre sa suite dans le monde, à vaincre l'ennemi en l'aimant, en se sacrifiant, en se donnant pour lui dans l'amour. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais voilà ce qui se passe dans ce deuxième acte, ce prophète qui parle, qui encourage les chrétiens à se souvenir de ce qu'ils ont reçu en Jésus-Christ et comment agir à sa suite face à l'ennemi, face au Satan. Mais il y a plus dans le troisième acte. Maintenant, et je vais passer très vite là-dessus, nous découvrons que Dieu n'a pas seulement vaincu Satan, mais qu'il l'a vaincu lui et ses associés par la croix, mais que ceux-ci, Satan, ses associés, toute la culture de mort qu'ils animent, aussi puissants soient-ils, ceux-ci sont destinés à disparaître. Et ce qui est intéressant dans l'Apocalypse, c'est que même si c'est surtout au chapitre 17 et 18 que leur condamnation va être effective, qu'ils seront jugés et jetés, on découvre en fait que tout au long des chapitres 6 à 20, que le jugement est déjà en train d'être mis en application. Il a déjà lieu, ce jugement contre eux. Oui, Dieu qui a vaincu Satan est d'ores et déjà en train de le juger. Il va le mettre prochainement, complètement hors d'état de nuire. Sa chute et celle de Babylone, elle est certaine dans l'Apocalypse. On n'en doute à aucun moment. Il y a présentement un combat dans le ciel, mais l'issue du combat est certaine. Et ça, dans l'Apocalypse, c'est l'acte qui prend le plus de place, mais il peut aussi être résumé finalement par deux versets, simplement, au chapitre 18, verset 2. Elle est tombée, Babylone la Grande. D'ailleurs, non seulement Dieu juge Babylone, mais la mort elle-même est vaincue. On le voit cela dans un autre verset. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Vous voyez, il y a un combat dans le monde, mais l'issue du combat est certaine. Dieu juge et Dieu va accomplir ses desseins. Il mettra hors d'état de nuire Satan et tous ceux qui s'opposent à lui. Alors on arrive justement au quatrième acte maintenant. Dans ce quatrième acte, Babylone, la cité de l'oppression, de la mort, qui signifie, qui représente l'Empire romain, Babylone est remplacée par la Nouvelle Jérusalem, au chapitre 21 et 22. La nouvelle terre et les nouveaux cieux qui vont venir. Une nouvelle culture de vie sera proposée, sera offerte, où la plénitude de la paix, où l'harmonie la plus totale prendra place, à la place de Babylone. Ça, on le lit au chapitre 21 et 22 du livre, les chapitres finaux. La Nouvelle Jérusalem est un lieu où souffrance et tristesse sont absentes. Un temps aussi, un lieu où l'oppression n'est plus. Là, dans la Nouvelle Jérusalem, la guérison commence. L'humanité est restaurée. Elle loue Dieu dans une communion, dans une harmonie parfaite et totale. Voilà l'espérance finale qui est proposée aux lecteurs de l'Apocalypse, à ces chrétiens, s'ils persévèrent, s'ils sont vainqueurs. Voilà l'aboutissement du récit qui est compté dans l'Apocalypse. C'est la nouvelle création. Alors, nous allons le voir, il serait assez difficile d'imaginer une conclusion plus à propos de toute l'Apocalypse, mais de toute la révélation biblique aussi, et c'est magnifique que la Bible soit agencée de la sorte pour terminer avec l'Apocalypse, pour terminer avec cette vision de la nouvelle création qui est pour nous une espérance extraordinaire. On le lit, chapitre 21. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Mais je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée de son mari, pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains, il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit « De tout, je fais du nouveau. » Et il dit « Écris. » Écris car ces paroles sont certaines et vraies. Il me dit « C'est fait. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Et pour les lâches, les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les prostituées, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort. » Voilà. Je m'arrête là, on pourrait continuer, mais le temps tourne. Toute cette description, elle continue jusqu'au verset 5 du chapitre 22. Alors, quels sont les points saillants de cette description de la Nouvelle Alliance ? Déjà, c'est sa magnificence, c'est sa beauté qui est mise en avant, bien évidemment. La nouvelle création sera belle, elle sera parfaite. Hein. C'est l'ampleur que prend cette description qui est assez impressionnante. Tout est beau, tout va bien dans la création, la nouvelle création. Tout va mieux, tout est parfait, harmonieux. Et puis, ce qui est saisissant aussi, c'est le contraste avec Babylone. Alors, je n'ai pas tout lu, mais la ville déchue, Babylone, la ville idolâtre, la ville qui symbolise l'oppression, qui est notamment décrite au chapitre 17 et 18 de l'Apocalypse, n'est plus. Elle est remplacée par la nouvelle Jérusalem et le contraste est saisissant. En Apocalypse 17, l'ange montre à Jean Babylone et il la décrit comme la grande prostituée. Mais remarquez, ici, on l'a lu, comment l'ange parle de Jérusalem. Il l'appelle l'épouse, hein, la femme de l'agneau. L'une est donc une prostituée cherchant à pervertir par son influence. L'autre, c'est l'épouse, radieuse, radieuse de pureté, radieuse et glorieuse dans sa sainteté. Babylone subit la colère de Dieu au chapitre 17 et 18, son jugement. La nouvelle Jérusalem, elle est bénie et elle reflète la gloire de Dieu. Alors, ces contrastes, à quoi servent-ils ? Eh bien, à montrer, bien sûr, que la nouvelle Jérusalem est l'alternative divine à l'Empire romain, comme à toute incarnation ultérieure de Babylone. D'ailleurs, l'auteur continue ce contraste entre les deux en parlant de la taille, hein, de cette Jérusalem céleste. Et c'est assez impressionnant, hein. Si vous relirez ce texte, il décrit la nouvelle Jérusalem comme un cube immense de 12 000 stades de longueur, de largeur et de hauteur. En gros, c'est un cube d'un peu plus de 2000 km de côté. Et ce n'est pas anodin du tout, c'est une description symbolique, mais s'il utilise cette taille-là, cette longueur-là, c'est parce que l'Empire romain, à l'époque, il était considéré comme faisant à peu près 2000 km sur 2000 km. Et bien là, la nouvelle Jérusalem, elle vient et elle s'impose, elle remplace, elle est largement, suffisamment grande pour engloutir Babylone, l'Empire romain. Et puis cette ville, elle est décrite non simplement comme étant carrée, en deux dimensions, mais en trois dimensions. C'est un cube, et ça c'est une référence sans aucun doute au Saint des Saints, dans le tabernacle, qui était un cube. On voit cela en 1 Roi, chapitre 6. Et donc les enfants de Dieu sont décrits ici comme une communauté de prêtres royaux qui vont pouvoir être dans ce temple, dans la présence de Dieu, dans le Saint des Saints. Dans la Nouvelle Jérusalem, Dieu sera présent comme il l'était dans le Saint des Saints, dans l'Ancien Testament, et son peuple aura accès à sa présence en tout temps. Il vivra dans sa présence. La Nouvelle Jérusalem, la nouvelle création, est donc bien plus belle, bien plus glorieuse, bien plus grande, bien plus puissante aussi que Babylone, que l'Empire romain, que tous les systèmes d'oppression qui sont présents dans le monde. Alors il y a d'autres choses qui sont intéressantes, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus longuement. On l'a lu, il n'y a pas de la mer qui représente le chaos et le mal dans la nouvelle création. Il n'y a pas la mort, il n'y aura plus de larmes. Plus de larmes. Plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Plus rien de souillé. Pas de porte fermée. Toutes ces omissions, tout ce qui ne sera plus, c'est une valeur théologique très forte. Ce que l'auteur veut faire comprendre, veut mettre en valeur ici, dans cette vision de la nouvelle création, c'est que les plans de Dieu pour sa création seront enfin accomplis. Le dessein de Dieu, c'était de réconcilier l'ensemble de sa création avec lui-même, et cela sera fait. Oui, dans la nouvelle création, tout sera en paix, l'harmonie totale sera rétablie, tout ce qui existe sera renouvelé, changé, transformé en mieux, en parfait. Tout sera nouveau. La culture de la mort, la culture de la bête, la culture de Babylone sera remplacée par la culture de l'agneau, du Christ, qui sera présent, qui sera tout en tous. Alors, j'aurais pu dire quelque chose sur le fait que c'est une ville, mais j'avance. Et je conclus. C'est par cette grande, cette très belle image que se conclut le livre de l'Apocalypse. L'espérance ultime des chrétiens se trouve là. Dans la Nouvelle Jérusalem, les chrétiens régneront avec le Christ pour toujours. Alors que les chrétiens peuvent souffrir dans le monde face à l'oppression, face aux forces de Satan, face à la culture de la mort, l'Apocalypse leur aura montré que Christ est mort, que l'agneau immolé a déjà vaincu Satan et ses sbires. Elle aura aussi rappelé que Satan et Babylone sont en train d'être jugés, qu'il ne faut pas perdre cela de vue, et que leur jugement sera définitif, abouti, quand viendra la nouvelle création. La victoire finale arrive. Elle arrive donc, et la paix totale et parfaite sera rétablie. Alors oui, le combat continue, l'issue du combat pourtant est d'ores et déjà certaine. C'est Dieu qui a vaincu, c'est Dieu qui vaincra. Satan a beau se déchaîner encore aujourd'hui, il est libre de le faire d'une certaine manière, comme on le voit au chapitre 20, mais il est vaincu et il sera mis définitivement hors d'état de nuire. Une belle image pour expliquer ce qu'est en train de communiquer Jean dans tout l'épître, dans toute cette épître, oui, ce livre qu'est l'Apocalypse. Je trouve que c'est l'image de la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai demandé à mes grands-parents si c'était bien comme ça que ça s'était passé, parce qu'ils ont vécu tout ça. Vous savez, quand les Alliés ont débarqué en Normandie, eh bien, à ce moment-là, tout le monde en France et en Europe s'est dit « la guerre est finie ». Les Alliés étaient là, sur le continent, c'est comme si la guerre était finie. Et pourtant, c'était le 6 juin 1944, pourtant, les combats ont continué. Ils ont dû avancer dans les terres pendant pratiquement un an, même un tout petit peu moins d'un an, pour aller libérer l'ensemble du continent. Et c'est seulement le 8 mai 45, donc un an plus tard, que l'armistice, que la paix définitive a pu être signée. Les Alliés étaient déjà vainqueurs. Ils étaient considérés comme tels. Mais la victoire finale, elle n'est venue qu'un an plus tard. Et il y a eu du combat entre les deux. Eh bien, quelque part, c'est ça. C'est cette image qu'essaie de communiquer Jean dans ce livre, dans l'Apocalypse. La victoire initiale de Jésus-Christ, elle est bien là, elle est bien réelle. Et le jugement du Satan, il est en marche. Et il y a du combat. Satan est vaincu, mais il continue de se débattre. Il est enchaîné, mais sa chaîne est assez longue pour qu'il puisse faire du mal. Mais il est vaincu. Et très bientôt, la victoire finale, définitive, sera là, et ce sera la paix. Eh bien, cette image que nous donne à voir, ce monde que nous donne à voir, cette perspective que nous partage Jean de Patmos, c'est une perspective qui peut nous encourager, nous aussi, dans notre vie de tous les jours. Sur la base de la victoire de Jésus-Christ, nous pouvons vivre notre vie, combattre aujourd'hui. Et nous avons cette certitude qu'en restant fidèles à notre Seigneur, nous serons vainqueurs. C'est lui qui sera vainqueur en nous. C'est lui qui nous apportera la paix, c'est lui qui retirera nos larmes, c'est lui qui retirera la mort, l'injustice et tout ce qui appartient au Satan et à Babylone. Voilà le message que voulait faire passer l'Apocalypse aux sept églises, et voilà le message dont nous pouvons nous saisir, nous aussi, dans nos vies chrétiennes, aujourd'hui encore, dans l'attente de la Jérusalem céleste. Amen.